et particulier quand il est lu par Vénus. Il y a un rêve dans le regard. Et vous êtes parti d'un rêve vous-même. Par contre, Vénus carré Neptune, carré alors céleste, de gauche, Neptune se trouve ici, pointe de 10, au sommet de la croix. C'est le mandat saturnien, le sommet de la croix, de la forme finale. C'est ce que la tradition a appelé la volonté du ciel. Autrement dit, de même que l'ascendant du thème, la prise de conscience de la première maison, part dans la vie en s'inspirant des motifs de la 10, comme toujours, puisque la 10e représente l'aspiration de la vie, la raison d'être de tout le thème, l'ambition, la réalisation finale de toutes les énergies mises en faisceau. Alors vous comprenez bien que si Vénus est carré Neptune, force nous est de nouveau de mettre Vénus à l'ascendant, car une planète, au moment où elle entre en fonction en nous-mêmes, c'est un ascendant, c'est une prise de conscience de cette énergie. Ici, la prise de conscience, c'est l'aurore du moment, c'est l'aurore vénusien de notre être, et l'aurore vénusien de notre être part en mouvement, ayant derrière lui et planant au-dessus de lui, alors, en 10e pointe, au sommet de la croix, l'âme du monde. L'âme de son âme, si vous voulez, sur le plan humain, la psychologie collective de l'individu. Alors là, ce n'est pas que Neptune appelle Vénus, non, non. Mais cette fois-ci, c'est Vénus qui est hantée. Elle est sous le feu, ou si vous voulez, sous le faisceau lumineux de Neptune. Elle ne voit pas le phare devant elle, Vénus, non. Le phare est derrière. Elle sent que cette lumière est tout au fond de l'horizon, derrière elle. Elle ne peut pas y aller voir. Elle se retourne périodiquement pour voir d'où vient cette lumière. Elle sait qu'il y a une lumière tout au fond derrière. Et de temps en temps, elle avance en pensant qu'elle est dans son rayon pour découvrir qu'elle n'y est plus. Alors elle se retourne pour repérer la position du phare. Et tout à coup, dans les brouillards, lui de nouveau, le phare de Neptune. Alors Vénus reprend sa position, car Vénus carré Neptune est envoyé en avant. Vénus carré Neptune, c'est Vénus qui est envoyé en avant sous les auspices de Neptune. Est-ce que l'ascendant dans votre thème, votre première maison, votre moi, n'est-il pas envoyé en avant par la volonté du ciel, par la 10e maison? Est-ce que votre ego n'est pas envoyé en avant dans l'incarnation pour y apprendre certaines leçons, pour y grandir et pour rapporter un butin, une récolte personnelle et collective qui intéresse de premier ordre avant tout la 10e maison, le Seigneur de la vie, qui est vraiment ce qu'on appelle le Seigneur du monde? Vénus carré Neptune est hantée par l'amour divin, hantée par la compassion suprême de l'univers, car Neptune c'est toujours la compassion, la plus haute forme de l'amour, la compassion universelle, c'est la grâce, la grande grâce. Et Vénus est hantée par la grâce, et puisque c'est le carré, c'est là la tragédie du carré, que dans les deux cas, Vénus fait l'expérience d'une agonie. Car l'agonie, le mot grec l'indique, c'est une souffrance spéciale. Vénus est en pied de la croix. Vénus est prise dans un courant. Elle ne sait pas exactement ce que c'est qui l'emmène la gravitation de Neptune l'absent, sans voir exactement où en est l'objectif, le but. C'est une recherche avec une certaine oscillation. Et dans cette oscillation, il y a l'agonie du cœur. Car les agonies de nos forces vitales ne sont pas dues à autre chose qu'à leur oscillation et au manque d'un seul centre dans le cercle de chacune d'elles. Nos forces oscillent sur une ellipse avec deux centres avant de trouver le centre. Cette agonie est le fruit d'une oscillation. L'oscillation des planètes. L'oscillation des satellites. La circularité est un triomphe de la permanence et du réel. Ce qui est, je parle de Vénus spécialement, parce que c'est un aspect très noble, parce qu'il est courant. Vénus fait le tour en 225 jours. Donc vous voyez le nombre de fois que nous pouvons avoir des gens qui ont soit l'un, soit l'autre de ces deux carrés. Vénus carré Neptune, ça veut dire noblesse oblige. La noblesse est là, c'est le Neptune. Noblesse oblige. Vénus ne peut pas se comporter dans une oscillation beaucoup trop excentrique. Elle est tenue. Elle est tenue par une noblesse. Envoyée dans le monde par l'âme du monde, combattatrice de l'âme du monde, la puissance personnelle d'attache en vous, tantôt au fond d'elle-même à 4500 millions de kilomètres de profondeur. C'est la source même de toutes les grâces de la vie, et du sens de la vie, et le sens de l'éternel tout d'un coup. Le diapason de l'éternel face au temporel, car la Vénus va et vient, elle aussi, elle est les choses, elle qui vit, et puis elle doit les abandonner. Et c'est la mort, la souffrance, ou alors c'est le détachement, c'est la neutralisation, une forme encore pire de la mort, et de la déchéance de l'usienne. Oui. Mais ambassadrice du principe même de l'éternité et de la permanence. Comment voulez-vous que Vénus ne se sache pas elle-même attachée à la source de l'éternel et peut-elle fonctionner autrement que dans une fonction qui soit elle-même partie de l'éternel? Vénus, carré Neptune, noblesse, oblige le cœur. Noblesse, oblige le cœur. D'où la personne qui a ça est hantée, hantée. Elle ne le cherche pas devant elle, elle le cherche derrière elle. Elle dit, cette personne qui est devant moi m'attire. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi suis-je? Elle ne voit pas Neptune au fond de vos yeux. Elle cherche à se relier elle-même à Neptune par le choc de votre regard. C'est différent. Elle cherche à se relier cette Vénus à son propre Neptune, en les profondeurs d'elle-même, sous le choc ou l'empire de votre regard. Voilà pourquoi cette Vénus fait un mouvement de rotation sur elle-même. Si vous l'observez psychologiquement dans les gens qui ont cet aspect, et elle se retourne en arrière et tout à coup l'œil se ferme dans cette personne. Elle se ferme et elle cherche à se rappeler de quelque chose. Qu'est-ce que ceci me rappelle, Vénus carré Neptune? Ceci compris pour la quadrature, le carré Vénus-Neptune, doit, il me semble, servir de clé pour l'interprétation des autres planètes en carré de Neptune. Il y a une relation organique extrêmement harmonieuse, une sorte d'identité entre Vénus et Neptune. Neptune, c'est une immense Vénus, et Vénus, c'est un petit Neptune. On a dit que Neptune, c'est une octave supérieure de Vénus. Donc Vénus, une octave inférieure de Neptune. Si l'on veut employer ce langage, cela est exact. On ne dira pas que Mars, c'est une autre octave de Neptune. Et pourtant, maintenant, il faut introduire le principe de Mars dans la quadrature. Car Vénus et Mars, c'est extrêmement lié. Et alors, cette fois-ci, au lieu d'avoir Vénus ici, nous aurons Mars, que nous mettons donc le soleil. Et l'ascendant, dans la prise de conscience, l'aurore de la conscience du moment, ça va être l'énergie dite la force, la qualité, maintenant, la qualité de l'être qui s'appelle Mars. La qualité de l'être, spécifiquement, les Mars et pas Vénus. Il y a un rapport très étroit entre Vénus et Mars. Sans Mars, dans l'histoire de l'homme, donc dans l'histoire du monde, car l'homme ne fait que répéter l'histoire de la Terre, et l'histoire de la Terre ne fait que répéter l'histoire du système solaire. Si vous voulez comprendre quelque chose au système solaire, qu'est-ce qui se passe dans les rapports, la téléphonie, si vous voulez, des planètes entre elles et par rapport au Soleil, et de quoi elles, à quoi elles servent dans les rapports entre les Soleils, dans la galaxie. Songez simplement à votre thème, le seul endroit où vous pouvez vérifier ces choses. Et vous verrez que vos planètes sont des systèmes de téléphonie, des réseaux extrêmement subtils d'intercommunication, ayant un but, un commencement et une fin et un sens. Et c'est dans ce thème humain que vous allez retrouver toutes ces choses pour la Terre elle-même. Il faudra bien dans ces quatre matins que nous parlions de la Terre elle-même et que nous voyons ce que c'est que le thème, l'horoscope de la Terre. Ça, je pense vous en donner toute une série l'automne prochain. J'espère l'automne prochain, si c'est dans le plan du ciel, m'occuper très peu du thème des gens, mais m'occuper beaucoup du thème de la Terre et rendre la Terre tellement vivante, tellement intelligente, tellement palpitante, une personnalité tellement formidable que nous en devenions véritablement tous amoureux et que nous ayons quelquefois des larmes pour cette très grande dame qui est la Terre et qui joue un rôle si immense, non seulement dans la vie des hommes, mais encore bien plus important dans la vie même de l'horoscope du Soleil. Car la Terre, c'est le maître, pour employer le langage technique, c'est le maître ou le seigneur de l'une des maisons, de l'une des 12 maisons du Soleil. Astrologie héliocentrique, astrologie géocentrique, c'est à quoi je pense donner le meilleur de ma pensée à ces groupes de Paris l'hiver prochain. Et point de l'humanité. Elle se retrouvera au bout de la côte. Combien d'entre vous, habitués à se pencher dans le silence des heures, dans la chambre, ou dans la campagne, au soleil, dans le bois, ou près d'un courant d'eau. Combien d'entre vous penchez sur votre thème à ces heures-là, et saisissant tout à coup la palpitation, la vie de certaines parties de votre thème, n'êtes pas tout d'un coup arrêté dans la contemplation plus grande de ce thème qui est devant vous et qui est celui de la terre. Ici, c'est la nuit, dans un ciel éclairé magnifiquement par les étoiles, et que vous ayez le bénéfice d'avoir dans le même ciel, à une heure de distance ou deux, la planète Vénus qui descend à l'horizon, la Vénus vespérale, et Jupiter qui monte au centre du ciel, comme nous l'avons vu ce printemps, Jupiter dans le lion, Vénus dans le bélier, et qui se voit la Terre se tourner sur elle-même, là d'heure en heure, et qui voit le croissant de la Lune monter lui-même, passant de Vénus à Jupiter en 2, 3, 4 jours, qui le pense à ce moment-là, son thème en main, ayant senti la palpitation de la vie dans ce thème, cette téléphonie interne, et regardant cette Terre et ce ciel, et surtout ces planètes, n'a pas senti qu'il y avait une âme, une intelligence, une douleur, une passion plus grande que celle de l'homme, mais bien plus intéressante que la nôtre. Vous n'avez pas assez de vous-même, toujours vous-même. La conspiration du moi que nous lance tout le temps la presse, et la publicité, et la radio. Quelle peine il se donne pour vous, que vous ne vous oubliez jamais votre moi. Vous ne l'oubliez jamais. Non, nous voterons véritablement dans la médiocrité. Je reviens à Mars. Mars est à 227 millions de kilomètres du Soleil. Un peu plus du double de Vénus. 227 millions. Vous trouverez ça dans n'importe quel ouvrage d'astronomie sur la Terre. Neptune a 4500 millions. Vous voyez que la zone religieuse à parcourir pour Mars est considérable, presque plus grande que Vénus. Et pour revenir à Vénus un instant, Vénus est impossible sans Mars. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Sans Mars, il n'y a pas de Vénus. D'autre part, sans Vénus, il ne peut pas y avoir un Mars. Tout ça se tient. C'est un autre angle de la même opération. Il faut s'engager dans l'inconnu, tout inconnu. Quelle qu'il soit, qu'est-ce que c'est qu'un inconnu? Mais c'est nécessairement ce qui n'est pas lui-même. L'inconnu commence immédiatement là où nous-mêmes cessons d'être simplement nous-mêmes. Ce nous-mêmes, on ne peut pas dire. On croit qu'on le connaît. Et dans une certaine mesure, on le connaît. Et dans cette mesure-là, on dira, ça, ce n'est pas ce qu'on connaît, c'est-à-dire, c'est donc l'inconnu. Et alors, dès qu'on est acceptant cet inconnu qui est autour de nous, on s'engage avec lui, et le moment qu'on s'engage avec lui, c'est là. On a reconnu l'inconnu qui nous entoure. On l'a reconnu, et le reconnaître, c'est s'engager avec lui. En lui, et par conséquent le laisser s'engager en nous, car il y a là, donnant, vous n'entrez pas sans être entré. Qui entre dans quelque chose, accepte que le quelque chose entre en soi, il y a la réciproque, c'est le mouvement maintenant, qui s'appelle Mars, dans le temps. On lui a donné 50 noms, on l'a appelé l'instinct. On l'a appelé l'esprit d'agressivité. C'est une puissance sortante, évidemment, sortante de soi. Alors, suivant comment on sort de soi, on peut dire que c'est agressif, évidemment, mais dans le meilleur sens du terme aussi. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on détruit quelque chose. Détruire, c'est encore une autre variante. C'est encore une sous-qualité particulière. C'est une orientation, ou plutôt un biais ou plutôt une déformation de Mars, que le Mars qui détruit ce qu'il touche. Et il n'était pas nécessairement fait pour ça. Donc, qui s'engage, se lie. Et qui se lie, graduellement, découvre la puissance de Vénus en lui. Mais d'abord, il fallait qu'il s'engage. Et qu'il fit un peu le sacrifice de lui-même et de son inertie propre. Or, Mars est merveilleux. En ce sens qu'il est la garantie que nous ne resterons jamais simplement inertes. Et si saint Paul avait raison de dire que le royaume des cieux n'appartient qu'aux violents, et que l'enfer est uniquement le monde des médiocres, eh bien, soyez tranquille, Mars nous garantit contre la médiocrité. Puisque la médiocrité, c'est l'inertie. Nous l'avons appelé l'instinct. On l'appelle l'instinct simplement parce que c'est une puissance qui marche, qui s'ébranle avant même qu'on l'ait pensé. Pourquoi elle s'ébranle? Et du moment qu'une chose s'ébranle avant même qu'on l'ait raisonné, forcément, on va appeler ça du monde de l'instinct beaucoup plus que du monde de la pensée ou de la réflexion. Il faut faire sortir certaines choses de nous-mêmes. Il n'y a qu'un procédé, c'est Mars. On l'appellera Mars. Il faut s'accrocher à quelque chose hors de soi-même. L'accrochage premier, c'est Mars. C'est l'engagement et c'est la passion. Mars est une souffrance. C'est pas gagnant. Aussi. Mais grâce à ça, graduellement, le Mars se transforme en Vénus. Et Vénus, de nouveau, se transforme en un nouveau Mars. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Mars dans le thème, c'est l'ancienne Vénus, et Vénus c'est le futur Mars. Et ça nous mène loin. Et ça nous mène loin. Or maintenant, à cause des fonctions que Mars a dans la vie de l'âme, dans la vie du corps, c'est toute puissance sortante, dans sa première masse de sortie. Mars vise à prendre le mouvement jupitérien d'ascension ou saturien de descente, mais il vise à le latéraliser. Il vise à l'horizontaliser. Et puis, maintenant, leur donner de la marche droite. Fonction là, le Mars. Maintenant, mettez-le en carré de Neptune. Alors, je vous dis tout de suite que dans un thème, Neptune carré Mars, ici, il y a quelque chose d'assez dramatique. Il y a quelque chose de ne pas aisé du tout à définir. Mars, ici, c'est de bouger. Faire n'importe quoi, peu importe, mais de bouger. Sa vertu, c'est dans le mouvement. Du moins, c'est comme ça que l'être humain en prend d'abord conscience. Je bouge, donc je suis dans le vrai. Tout sauf ne pas bouger. Ne pas bouger, c'est l'erreur. C'est le péché, c'est le mal. Bouger, c'est le bien, c'est la vérité. N'importe quoi, je bouge. C'est la première perception enfantine de la valeur de Mars. Mais l'enfantine. Neptune Carina, c'est nous assurer que l'individu va avoir son instinct, sa puissance de motricité sortant, dirigée vers l'âme du monde. Mais gauchement, mais maladroitement, c'est une quadrature avec une zone formidable à traverser, puisque Mars est 200 millions et Neptune 4500 millions de kilomètres proportionnellement l'un à l'autre dans nos âmes, dans les distances intérieures de notre être. Car il y a des distances dans notre être intérieur. Il y a des espaces, si vous voulez, dans votre être intérieur. Neptune est tout au fond de nous. Mars n'est pas. Mars est plutôt dans la surface, il faut l'avoir sous la main. Vous n'aurez pas Neptune sous la main. Lorsque tout d'un coup un voleur tâche de vous arrêter au coin d'un bois, vous n'aurez pas Neptune sous la main, vous aurez Mars sous la main. Surtout s'il est dans les signes de feu, surtout s'il est dans le bélier, vous aurez vite la main à votre revolver ou vite le poing sur la figure de l'autre. Ça ne traînera pas, ce sera spontané. Vous n'aurez pas Neptune. Vous ne pouvez pas assommer l'autre avec Neptune, c'est impossible. Votre Mars pourra être inspiré par votre Neptune. Oui, et encore, il le fera, mais généralement à retardement. Et parfois seulement. Donc le Mars, il est à la fleur de peau, et le Neptune tout au fond de vous-même. Mais vous comprenez, pour avoir Neptune, car il marche, il faut que ce mouvement, ce boxeur qui a ses poings autour de lui comme ça, il se sent tout prêt à taper s'il le trouve à gauche à droite, même pour la plus belle cause. Et s'il attaque à Neptune, il le voudra pour une belle cause. Ça, ce n'est pas un instinct qui le mène vers l'intérieur, ça. Ce n'est pas une puissance qui l'amène au contraire à se vautrer dans une énergie bestiale, à une crainte primaire. Non, au contraire. N'oublions pas que Neptune, carré Mars, oblige ce Mars à faire un plongeon dans l'intérieur de l'être. Que c'est une descente au fond de soi-même que l'énergie martienne doit faire. Que la motricité de Mars, c'est d'aller tout au fond de quelque chose. Tout au fond de quelque chose. Que si vous avez par exemple Neptune dans la quatrième maison et le Mars dans la première maison, là évidemment le Neptune en quatrième, surtout lorsqu'il reçoit une conjonction magnifique, disons d'une progression de la Lune qui va durer un bon moment, elle va prendre le Mars de première maison et lui faire sentir sa réalité. Mais sachez bien que le tirage est formidable. Et que c'est une descente au fond de vous-même, que ça ne se fait pas en surface. Par contre, Mars carré Neptune, carré alors céleste, Mars est en surface, il le reste toujours, Neptune est dans les profondeurs. Alors ce Mars-là, il parle au nom d'un Neptune en profondeur, et il fait comme s'il faisait ressortir des profondeurs et amener en surface ce Neptune. C'est tout autre chose. Voilà pourquoi vous aurez une certaine belligérance très spéciale quand vous aurez Mars carré Neptune. Neptune carré Mars n'a pas de belligérance en soi que je connaisse. Et Mars carré Neptune l'a, car l'énergie motrice de Mars croit qu'elle bouge au nom de l'âme du monde. Voilà. D'où les fanatismes. Et d'où la patience devant ce qui n'est pas absolument du même acte. Plus exactement, ce qui n'est pas exactement dans le même mouvement, puisque Mars est un mouvement et n'est pas un avis. Pour l'idée d'avis, il faudrait amener Mercure en proportion, surtout Mercure. Et quelque part le soleil. Mais ici, nous avons le mouvement. Il faut que le mouvement soit absolument semblable au mien. Si moi j'ai Mars carré Neptune, alors, j'avance, je fais quelque chose, j'amène. Il fait partie de plus en plus intégrant de la société humaine du 20e siècle et du 21e. Que la médiumnité humaine, qui connaît maintenant des phases extraordinaires de développement, voyez bien ça. Il y a Mars conjoint à Neptune, il y a Mars carré Neptune, il y a Neptune carré Mars. Ce sont des choses très essentielles dans des thèmes de médium aux manifestations particulièrement corporelles. Corporelle, parce que Mars a une façon, étant en surface, de vraiment diriger les zones religieuses du corps de l'homme, encore plus que les zones religieuses de la psyché de l'âme, les zones intérieures de l'homme, ce sont les âmes les zones extérieures les plus près à s'ébranler d'une façon motrice face à ce qui n'est pas soi, le monde extérieur. Voilà pour Mars. Le temps m'interdit d'aller trop loin encore, je vais prendre encore un carré et je continuerai les carrés lundi prochain. J'en vais prendre encore un. C'est un carré considérable. Un carré très fréquent. Et l'un des plus intéressants parce qu'il rend la personnalité tellement, comment dirais-je, souple et variée. C'est la lune. La lune. Or, voyez-vous, la lune, c'est une chose tout à fait à part. La Lune, c'est notre propre satellite de la Terre. C'est elle qui est notre maman à tous. C'est dans sa coupe que nous sommes tous, nous, notre Soleil et nos planètes. Neptune a beau être à 4 500 millions de kilomètres au fond de notre âme, la Lune est encore plus loin. La Lune est encore plus loin. Toutes les proportions sont reprises à l'intérieur de l'être. Or, un rapport étroit se trouve ici entre Neptune et la Lune. Parce que la Lune, c'est le terme même de toute chose que nous pouvons expérimenter. La Lune indique toujours dans le thème la limite absolue de ce qui est expérientiable. Non pas la qualité de ce qu'on peut expérimenter, mais non pas la qualité ni la quantité, mais l'extension de l'expérience. Quand vous dites, ah, je ne peux pas sentir plus que ce que je sens, je ne peux pas dépasser cette limite de la sensation ou de l'émotion, vous avez touché du doigt la frontière même de votre limite. Jusque-là, elle vous dit, je vais te faire sentir. Mais au-delà de ça, je suis incapable de te faire sentir. Parce que si tu devais pouvoir sentir au-delà de ça, tu deviendrais fou. C'est-à-dire que tu serais complètement démantibulé. Non, la Lune est une matrice. Elle vous maintiendra dans une certaine extension de l'expérientiable. La prise de conscience de n'importe quoi. Elle ne vous la permettrait pas au-delà d'une certaine grandeur. Autrement dit, c'est comme si vous aviez, avec vos oreilles, une pièce où il n'y aurait qu'un bruit tellement grand que chaque fois que le bruit est après, vos oreilles seraient percées. Voilà de quoi la Lune nous protège, de la grande acoustique. Elle nous protège des bruits qui tuent et des sensations qui tuent. Et voilà la Lune. La Lune, Neptune carré, la Lune. Le plus grand, le plus profond des centres de l'âme, Neptune. L'âme du monde, appelant votre mère à de votre petite personne, appelant tout le monde de votre sensibilité toute personnelle, toute cette force nutricielle, nutritive de votre arbre de vie, est axée maintenant, tirée vers l'âme du monde. L'âme du monde, quel rêve pour la Lune! Parler de la sensibilité, parler de l'émotivité, prise dans un carré pareil. Alors toute la sensibilité est entourée d'une aura. Toute la sensibilité, c'est un rêve. Vous ne pouvez pas être sensible sans rêver cette sensibilité. Il faut toujours qu'elle se dépasse. Et qu'elle se dépasse dans quelque chose d'infiniment ténu et d'infiniment fin. D'infiniment élastique, parce que immense la quadrature Neptune, la Lune. C'est immense, comme distance intérieure, c'est immense. La Lune, elle est dans le sol. La Lune, elle est partout, et Neptune est tout au fond. Tout au fond. Alors, il y a la Lune qui est en surface, c'est tout d'un coup du temps. Il faut que je descende maintenant tout au fond de cet être. Alors, elle fait la fine agrée. La Lune, elle est bâtie, elle est faite pour d'abord coller à la surface, s'entendre avec les surfaces. Et tout d'un coup, Neptune lui dit, mais dit non, petite femme, tu appartiens à une bestiale. Tu n'es pas simplement une femme. Hein, tu n'as pas à t'occuper seulement de ton compagnon, le soleil. Pas jamais de la vie. Tout ça, c'est très bien. Mais tu es une bestiale de l'âme du monde. Et tu vas d'abord la rejoindre et comprendre ton rôle. Et puis après, on te laissera courir de nouveau. Alors, la lune fait semblant. Elle fait semblant. Et voilà pourquoi vous avez cette puissance d'imagination extraordinaire des gens qui ont Neptune carré la lune. Ils peuvent faire le semblant de tout ce que l'imagination peut leur dire sur le monde divin, sans que jamais ils l'aient eux-mêmes encore vécu, ce monde divin. Voilà pourquoi c'est l'aspect typique des grands acteurs et des grandes vedettes de Hollywood. On a dit stupidement, comme les trois quarts des choses qu'on dit en astrologie, sont parmi les plus belles stupidités qu'on écrit, que Hollywood, c'est Neptune, par suppos. Neptune, c'est l'illusion. Mais l'illusion, Neptune n'est pas l'illusion. Simplement dire que Neptune, c'est l'illusion, c'est la fantasmagorie, c'est l'imaginaire. Mais c'est méprendre sur le sens des termes. Mais attention, introduire la puissance de Neptune dans une situation, et il faut se prosterner devant, ou alors autrement dit, tu vas être gâté. On ne plaisante pas avec Neptune. La Sainte Vierge entrait dans cette chambre en ce moment-ci. Croiriez-vous que vous plaisanteriez un instant? Vous n'en auriez pas peur? Vous n'en seriez pas effaré? Il y a quelque chose en vous qui fondra. Vous ne seriez pas normaux. Alors Neptune fait fondre quelque chose en vous. Non. Hollywood, c'est Neptune affligeant la lune. C'est surtout ça. Disant à la lune, maintenant, venez à moi. Alors, on lui rend la monnaie en lui disant, en lui fournissant toute espèce d'imitation. Car la lune, c'est la plus merveilleuse imitation de n'importe quoi. Pourquoi est-ce que les artistes dramatiques sont des artistes dramatiques? C'est qu'ils savent si bien imiter vos émotions sans les partager eux-mêmes. On imite l'homme tout le temps. Par sympathie, on se met dans la peau de l'autre. Et souvent, on vit la chose mieux que l'autre même. Les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, sinon on n'ose dire aucun drame de cœur, peuvent être des actrices qui jouent les rôles des mères éplorées, comme presque pas une mère ne peut le jouer. Alors vous voyez cette puissance de sympathie quand même, cette sympathie extraordinaire, cette corde, cette zone quand même religieuse, c'est une forme de la religion, entre la compassion divine de Neptune, tout au fond de l'être, et cette lune ubiquiteuse, universelle, cette sympathie liquide qui coule dans tous les sens, et qui tout d'un coup est grise dans le faisceau de l'appel de Neptune. Vous n'avez rien à craindre dans un thème. Si vous avez Neptune carré la lune, j'entends vraiment craindre. Il y aura toujours des grâces spéciales pour cette personne. D'ailleurs, non seulement elle aura le charme et aussi l'exaspération de l'imagination, il y aura quelque chose de flottant et d'un peu flou, mais il y aura de la couleur, il y aura de la variété. Elle peut jouer sur une harpe à bien des cordes, bien des cordes. Elle va chercher quelque chose qu'elle n'a pas. La conjonction Neptune-Lune, c'est une des plus belles douceurs de la vie, c'est une des plus belles grâces. On ne le cherche pas, on est. Mais, en tout cas, Neptune carré la lune, on sent qu'il y a le tourment du divin. On sent que le Neptune se fait réaliser quand même. Et là où est Neptune en réalisation, il y a toujours la guérison. Il y a toujours le surnaturel. Car il y a le surnaturel dans Neptune.
Nul ne peut savoir ce que Neptune dans votre tête cache. C'est cela qui se révèle seulement, lentement, avec les années. Un élément du surnaturel dans le thème. Où qu'il est dans le thème, il fait de la maison où il se trouve une maison de magie. On ne vit pas tous les jours avec de la magie. Mais quelquefois, on ne peut pas faire autrement que ne pas oublier les heures magiques que Neptune nous apporte. Quelle différence! Si l'on veut l'avoir, cette différence totale, d'avoir Saturne carré la Lune, et beaucoup de vos bras carrés pour la Lune. Et alors, quand elle se promène, cette Lune, tous les mois, avec ce diapason Saturne carré la Lune, au lieu d'avoir le diapason Neptune carré la Lune, ça donne une acoustique autour de soi, la sensibilité, beaucoup plus sombre. Et je vous passe le carré Pluton carré la Lune. N'en parlons pas. D'avoir le Neptune carré la Lune, c'est toute l'inversion de la chose. Alors, je crois que je reste ce soir sur Neptune carré la Lune. Et pour finir, cette Lune carré de Neptune en céleste. Et alors, je rappelle que ça veut dire ici que Madame la Lune, dans chacun de nous, hommes et femmes, car dans son cycle, se sentant hanté par quelque chose de magique et de divin, très insaisissable, car la Lune, elle ne pense pas, elle sent. Elle va donc sentir cela. Et c'est ce que j'ai appelé le châle ou le voile bleu autour du cou qui flotte derrière soi à mesure que Diane avance. Elle a un voile bleu autour du cou qui flotte derrière elle à mesure qu'elle avance. C'est le rappel que l'âme du monde est toujours là, au fond des choses, et que Madame la Lune ne peut courir qu'à cause de cette guérison. Merci. Sa révolution solaire, où elle a Pluton conjoint Jupiter, et dans son thème natal, Jupiter est le maître de l'ascendant car il est le Pluton, et le Pluton est en 7. Elle comprenait très bien ce Pluton. D'ailleurs, elle était venue à Paris à ma première conférence du Pluton au printemps 53 et ça l'avait bouleversée. Et elle avait dit, cet homme a quelque chose pour moi, et sur moi-même, qui va pouvoir me dire. Eh bien, en effet, elle a accepté et elle l'a compris périodiquement, pas toujours, parce qu'il y avait les aspects du Pluton, n'est-ce pas? Elle a 7 carrés dans son thème, 4 positions, 7 carrés réels, alors vous pensez. Eh bien, cette personne, cet hiver, me déclare tout à coup qu'elle n'est plus du tout d'accord avec moi sur ce temps. C'est au mois de décembre. Très posément, tout d'un coup, elle vient ici, elle va dire, je ne partage plus votre idée sur ce temps. Je trouve que c'est une planète merveilleuse. Je l'aime, mon Pluton. Je l'aime. J'ai appris à l'aimer. Je le trouve, il a un autre sens que celui que vous lui donnez. Et naturellement, je me suis dit, bien, il va laisser attendre à ça. Quelque chose va aller de travers. Il y avait certains rêves qu'elle avait eus, que des amis à elle avaient eus sur son compte, qui prévoyaient qu'elle allait entrer dans un tunnel très noir, à cheval, sanitaire, que dans ce tunnel, elle allait avoir le tunnel de plus en plus bas, qu'elle devait se pencher sur son cheval, et que finalement le cheval lui-même a dû marcher à genoux, et que finalement, ne pouvant plus avancer, elle a dû descendre du cheval et reculer. Et elle a eu une amie qui a eu un rêve où elle la voyait tomber du 4e étage en arrière, à Londres, d'un bâtiment. Ne marquez pas tout ça, enfin, si vous voulez. Tombant en arrière, dans la rue, d'un 4e étage, délibérément, voyez-vous, le Jupiter en 10, le Pluton en 7, c'était le mouvement du Jupiter en arrière. Et alors, son amie est allée la chercher dans la rue. Elle avait une jambe cassée et la jambe droite, côté masculin de la nature, et côté de la raison. Et alors, la foule voulait immédiatement chercher un médecin, et quand elle a vu que c'était ça, et qu'on lui cherchait un médecin, elle a dit non, je vais immédiatement la faire transporter dans un avion, et elle sera soignée à Paris. Cette personne était une collègue de bureau d'elle, et c'était exactement ce qui est arrivé. C'est elle qui l'a soignée lorsqu'elle est arrivée complètement déglinguée au bureau. Elle n'était plus elle-même. Plus du tout elle-même. Elle marchait dans la rue, dans un état comme dans une fille. Elle déraillait complètement. Elle alternait constamment entre deux pôles d'elle-même. Et c'est cette femme qui a appelé la famille, qui a dit non, on ne la laissera pas rentrer, on ne la mettra pas directement ici, dans l'administration, dans un soin médical, on va appeler sa famille, et c'est elle qui a tout fait ça. Elle l'a ramenée à Paris. C'est exactement les deux choses qui sont arrivées. Eh bien, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que lorsque, dans un thème ou plus ou moins fort, où l'on a réussi magnifiquement à s'en défaire, à le comprendre, voilà le fond mot, comprendre, quand tout d'un coup, il réussit à vous persuader qu'il est le bon Dieu, qu'il n'est pas du tout ce qu'il est, enfin, qu'on doit se fier à lui complètement, mais comment donc, qui vous cite la Bible, etc., comme le diable le fait à Jésus dans le désert, c'est un moment grave, c'est un moment, on annonce une passe, parce que l'intelligence va plus se défendre. L'intelligence elle-même est envoûtée à ce moment-là, elle est prise dans le réseau. Ah, c'est là-dessus. Alors voici un thème d'une demoiselle qui est la fille aînée de mon laitier de la rue de Berry, ici à côté. Des très très braves gens, je ne l'ai jamais vu, mais nous parlons de temps en temps, cet homme, sa femme et moi, et voilà qu'il me dit les chagrins de sa famille, il a 4 enfants, et les chagrins de sa famille, c'est cette fille. Alors voyez son thème. Ah non. Voyez ce thème, qui représente vraiment un cas où la mythologie, la grande mythologie grecque, disons, joue la plein. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir. Voilà. Alors vous voyez que nous avons Pluton, conjoint le Soleil, conjoint la Lune. L'enfant est né tout juste après la nouvelle Lune, mais tout juste après la Lune. 22 est la Lune, le Soleil 21, elle est donc née 2 heures après la lunaison. Mais Pluton est à côté du Soleil, 20, 21, 22. Donc c'est le Soleil et la Lune et Pluton sont une conjonction. Et quelle conjonction ? Renforcée d'une façon du tonnerre par le fait que les trois sont en carré d'Uranus. Elle est née en 1931, l'une des années précisément où Pluton est carré Uranus pour tout le monde entier. Et toute cette génération de ces années-là, nous le savons déjà, nous pouvons l'observer, c'est une génération de gens qui déraillent et qui tendent à redescendre dans les bas-fonds de l'humain et de le goûter sous une forme ou une autre. C'est une forme d'Uranus encore à parler d'une certaine bohème, mais alors d'une bohème genre négatif, n'est-ce pas? C'est les bons hommes qui viennent avoir leur bas, venir hirsute, laisser pousser leurs ongles. Enfin, c'est tout ce monde-là. Or, elle a ça, Pluton 20, Uranus 19, mais alors renforcé par le Soleil, renforcé par la Lune. Vous imaginez ce que cet Uranus est en train de prendre comme crucifixion. Qu'est-ce qu'il prend comme crucifixion? Et vous voyez que le Saturne est en formelle opposition aux trois. Et quand même, il est obligé d'y venir parce que l'Uranus lui fait carré et qu'elle l'emporte ici. Alors, vous imaginez la bataille pour l'équilibre dans cette nature. Ce qui la sauve, c'est tout de suite les sextiles. Vénus n'est pas engagée directement, encore que la maison est vraiment sous le signe de la Lune. Alors, c'est cette Lune conjoint Pluton, carré Uranus, qui est maître de 8, et c'est ce pauvre Soleil, conjoint Pluton, conjoint Lune, qui est maître de 9. Heureusement qu'il a une conjonction, mais pas même. Oui, là aussi avec Jupiter. De ce côté-là, il y a Jupiter conjoint la Lune, conjoint le Soleil. Mais je veux estimer qu'à 9 degrés, il n'est plus exactement en conjonction de Pluton. Voilà. Alors, vous avez le Soleil qui est là. Donc, cette maison 8, cette maison 9 sont effroyablement malades. L'Uranus sur la pointe de 5, ça n'est pas beaucoup la cinquième maison, comme vous allez voir. Mais ce qui la sauve, c'est cette Vénus 7 du Cancer, sextile le Neptune 4 de la Vierge. Et par les maisons que commande cette Vénus. Ces maisons sont capitales. Vénus commande ici le Taureau pour la 6 et le Taureau pour la 7. Et Vénus n'est pas engagée directement dans la bagarre. Alors la 7, c'est une maison capitale. Mais capitale, c'est une des maisons de la grande expérience humaine avec les autres. C'est les associations. C'est quand même Vénus qui mène ça. Sextile Neptune. Et puis, Vénus mène encore la sixième maison, ce qui est encore un fonds de santé pour elle, et mène la onzième maison, les amis. D'autre part, ce Mars, 19 de la Vierge, conjoint au milieu du ciel, est trigone. Il est trigone de Saturne. Voilà, c'est le seul merveilleux aspect qu'elle a. Alors, milieu du ciel, c'est ce Mercure 9 du Lion qui est dégagé de cet ensemble ici, mais qui est repris par la conjonction de la pointe de 9. Alors quand le Soleil déraille, la pointe de 9 déraille et le Mercure est un peu asphyxié dans le déraillement.
fatalement. Mais enfin, lui n'est pas directement en cause. Et alors, voilà le Mars, conjoint de du ciel, sous la direction de ce Mercure, donc il est moins engagé, il est la planète la plus libre, mais il joue un rôle capital, car 19, il est sextile le Pluton, le Soleil et la Lune. De sorte que dans l'attelage d'un sextile, c'est lui qui les empêche de dérailler complètement. Car dans un sextile, c'est la grande valeur du sextile, c'est que la planète qui fait partie d'un sextile empêche l'autre d'aller à U ou à Dia, quand une des deux est normale et justement d'aller tout droit. Vous voyez très bien, n'est-ce pas, deux chevaux attelés à un même timon, si l'un craque un peu, quel autre qui le retient. On ne peut pas décoller d'un sextile, c'est la beauté de tout sextile. On ne décolle pas du sextile. Nous l'avons vu l'autre jour dans le thème de Mme de La Rochefoucauld, que le sextile de Jupiter aux planètes du Sagittaire l'avait vraiment sauvé. Dans les positions formidables, les quadratures qu'elle avait, ce sextile l'a sauvé de la mort plus d'une fois. Et d'autant plus que ce Mars envoie un trigone à Saturne, et que Saturne est maître de sa 2. Alors voyez que cette pauvre fille, un des problèmes qu'elle a eu toute sa vie, c'est l'angoisse. L'angoisse de l'insécurité, deuxième maison. Le Mars, heureusement, maître de l'ascendant, le maître de l'ascendant soutenant la deuxième maison. Mais le Saturne emporté est marqué l'opposition. Dans un thème, on sait que quand on a Saturne opposition à la Lune, et que la Lune n'est pas par ailleurs bien soutenue, c'est difficile. Hein. Rien que ça, c'est difficile. On sait que la raison, l'équilibre pour les émotions, n'ont pas de rapport avec les émotions. Il y a une dilatation toute spéciale des émotions, il y a une déformation, comment dirais-je, convexe de la vision des choses par la Lune. Alors là, le pauvre Saturne fait opposition aux trois. C'est vraiment un déraillement de ces trois, et c'est empiré par le fait que Saturne est emmené dans le gouffre du Pluton par l'Uranus qui est obligé d'y aller, surtout lorsqu'il est en aspect. Alors on sent cette angoisse perpétuelle de cette pauvre fille. Remarquez que dans ce thème, heureusement pour elle, elle n'a pas eu ceci en maison 7, donc en maison 1. Ça aurait été beaucoup trop brutal. Cette intensité-là, ce déraillement-là aurait été beaucoup trop brutal. Elle aurait eu dans l'axe de véritable cheminement, du comportement très personnel, engagé toujours avec les autres. L'ayant en 8 et 2, l'engagement n'a pas été aussi personnel. C'est remarquable de voir dans les thèmes que quand les grandes bagarres se font dans les signes mutables et dans les maisons de mutables, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12, les problèmes ne sont pas sur un plan aussi personnel que lorsqu'ils sont sur la croix cardinale. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas? C'est très différent. Vous auriez les mêmes aspects sur la croix cardinale, vous recevez ça en pleine figure. Alors là, vraiment, vous le recevez sur le nez. Mais alors, vraiment, la réaction est tout le temps avec autrui. Ah, c'est la vie horizontale, c'est l'incarnation qui vraiment, là, marche sur des brises vertes. Mais ceci, elle a échappé énormément à ça, étant née à l'heure qu'elle est née. Elle l'avait en 8 et 2. Et 8 et 2, ce n'est pas l'être, car ici c'est l'être, 1, 7. Je suis cela, dit 1, 7. Ici, l'être a pu dire j'ai cela. 2, 8, c'est la possession, c'est l'avoir, c'est le verbe auxiliaire avoir. C'est quand même pas. Elle avait quand même une marge entre elle et son problème. Avec ça, c'est Mars l'ascendant, donc c'est ce bon Mars. De Saturne, c'est la deuxième maison, c'est en somme, c'est la meilleure planète ailleurs, ce Saturne presque. Le Verseau, c'est sa 3, c'est une mauvaise maison pour elle, la 3, puisque l'Uranus est emporté dans le tourbillon de la vie. C'est une mauvaise maison pour elle, et c'est ce que nous on va bien voir tout à l'heure. Car il vient de vous dire que c'est une femme qui a passé 5 ans dans une maison de santé. Elle était complètement isolée de sa famille et du monde entier. Et que tout ça a commencé de la puberté. Et qu'elle s'en sort seulement maintenant, mais lentement, très lentement. Et que les médecins disent de toute façon, il faudra tout le temps du support endocrinien. Car vous imaginez bien l'insuffisance et le déséquilibre du système glandulaire de cet enfant, qui a maintenant exactement 25 ans. Mais c'est la joie de voir le bon papa me dire « Ah, je vais y avoir dimanche, elle est beaucoup mieux, elle veut revenir à la maison. » Alors, le caractère particulier du mal, il est d'ailleurs complexe. Ça engage 3 planètes d'air, définitivement, ça en engage 4, ça en engage presque 5, mais ça, nous y viendrons tout à l'heure. Alors, une maison mauvaise et bonne à la fois pour elle, c'est sa 4e, c'est naturellement le Neptune qui en est le maître, naturellement comme il soit, et lui a un sextile à Vénus. Alors ça s'accorde, ça, la 4 s'accordera avec la 6, ça s'accordera avec la 7, ça s'accordera avec les amis de la 11, elle a eu de bonnes amies. Chaque fois que le Neptune joue, alors le sextile joue. Mais quelquefois, naturellement, et plus souvent que ça, joue le Pluton, conjoint le Soleil, conjoint la Lune, carré l'Uranus, il a joué sa Pluton, et alors vous voyez qu'elle a dû, elle est. Et ça a fait dérailler toute sa base. Elle n'a même plus reconnu ses parents à un moment donné. Elle connaissait toute sa famille. Elle n'en avait plus. Le bélier pour la 5, il est bon, c'est ce Mars. Malheureusement, l'Uranus est sur la pointe. Suffisant pour déformer l'action martienne, pour lui interdire son jeu normal. Ici, mauvaise maison, c'est la Lune. Mauvaise maison, c'est le Soleil. Bonne maison, c'est le Mars, c'est le Mercure. Bonne maison, c'est celui-ci. Bonne maison, celui-là. Vous voyez qu'en somme, elle n'a pas beaucoup de mauvaises maisons. C'est heureux que ce n'ait pas été un autre dispositif. Si ceci avait été là, le dispositif des pointes aurait été haute et beaucoup plus stratégiquement engagé dans la bagarre. Il y a quand même des protections du fait que tant de maisons sont sous la régie des meilleures planètes. Voilà. Première chose. Seconde chose, elle justifie ce thème, toute cette idée de Mercure, l'enfant du Soleil et de la Lune. Son père et sa mère, c'est Mercure. Or ici, vous voyez que le Pluton conjoint le Soleil lui enlève la puissance créatrice solaire, c'est l'impotent Soleil, ça ne s'arrête pas. Il n'y a aucune espèce de constance dans la poursuite d'un même dessin. C'est donc une velléité à fond. Là, bien sûr. Car la volonté, c'est la capacité de maintenir la constance dans la poursuite d'un même dessein. C'est ça la puissance masculine, par excellence, c'est ça. Or, le Pluton conjoint le Soleil lui supprime ça. Il fait vaciller tout le temps. Donc, l'emprise que doit avoir le principe masculin sur le principe lunaire, le principe féminin, 22 du Cancer conjoint le Soleil, vous parlez d'une intensité dans un thème, dans une conjonction, n'est-ce pas? Une conjonction pareille pour la vie. Toutes les personnes qui ont la conjonction Soleil, comme c'est dans le Cancer, c'est les larmes, c'est une surabondance océanique d'émotivité. On est là constamment à employer des mouchoirs toute la fin de journée pour un oui ou pour un non. Alors, vous avez ça d'autant plus renforcé que l'opposition de Saturne. Alors, c'est complet, ça, c'est complet. C'est tout ce qu'il y a de plus complet. Mais alors, le Pluton arrivant là rend le Soleil impotent.